Il y a actuellement sur Facebook et Instagram une vague de dénonciations d'agressions sexuelles. Donc, des jeunes filles vont écrire des témoignages de leurs agresseurs et parfois, elles vont écrire aussi le nom de ces agresseurs-là. Ce qui fait en sorte que plusieurs artistes, dont Marie-Pierre Morin, ont perdu beaucoup de contrats récemment. C'est ce qu'on appelle la « cancel culture ». Pour connaître davantage c'est quoi la cancel culture, j'en discute aujourd'hui avec Nelly Brière, qui est spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Alors, c'est quoi la cancel culture? Ça vient d'où ça?
Bien, déjà, il faut dire là, tout d'abord, d'entrée de jeu, que c'est un concept qui est assez controversé. Hein, la cancel culture, c'est un terme qui est apparu, disons, en 2015, mais qui a été popularisé plus depuis 2018 avec la grosse vague de MeToo, hein, qui est un peu une des premières vagues de celle à laquelle on assiste présentement, qui fait référence à une culture qui serait de dénoncer, de faire des dénonciations publiques dans le but d'humilier ou de punir des personnes sur les réseaux sociaux dans le but qu'elles soient expulsées soit de leur cercle social ou de leur cercle professionnel. Bref, il y a plusieurs chercheurs qui vont mentionner que c'est pas une culture, là, parce que ça l'a pas, ça c'est un faux mot d'utiliser le concept de culture ici. C'est plutôt un phénomène de communication. Et c'est un phénomène de communication, cela dit, qui n'est pas nécessairement nouveau, dans le sens où des gens qui sont un peu call out, pour utiliser le terme, sur les médias sociaux, il y a des gens qui l'étaient dans les médias traditionnels auparavant. T'sais, on peut référer, par exemple, aux années 80, où il y a un commentateur sportif, Jimmy DeGray, qui a perdu son travail à CBS à cause qu'il avait été justement dénoncé. Eddie Murphy, qui a dû se confondre en excuses dans les années 90 pour avoir tenu des propos homophobes. Bref, il y en a eu plein de cas comme ça qui ont existé avant l'avènement des réseaux sociaux. La différence avec les réseaux sociaux, premièrement, c'est que tout le monde peut participer. Parce qu'avant, c'était uniquement les gens qui avaient accès à des tribunes, qui avaient accès à l'espace public ou des journalistes qui pouvaient dénoncer puis ainsi faire connaître leur dénonciation. Là, c'est tout un chacun. Il y a des regroupements qui peuvent se créer. Donc, disons que l'espace public est plus accessible d'une certaine manière pour pratiquer ce phénomène-là. Mais attention, c'est un phénomène qui ne touche que pratiquement que les personnes très, très connues en général, parce que cette culture de dénonciation-là, puis les gens qui s'en plaignent beaucoup, là, ce concept-là d'ailleurs est évoqué souvent par les gens qui en sont victimes, sont des gens qui ont accès à de très grandes tribunes en général, qui ont beaucoup de visibilité. Et ces personnes-là, qui dit beaucoup de visibilité, dit beaucoup de pouvoir, et qui dit beaucoup de pouvoir, dit beaucoup de responsabilité aussi. Alors, leurs propos sont plus surveillés. Alors, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, à partir du moment où il y a un doute qui est évoqué, des dénonciations qui circulent dans l'espace public, souvent, leurs employeurs vont pas prendre la chance que ce soit de vérifier ou pas, parce que ils ont souvent des politiques ou des standards qui font en sorte qu'ils peuvent pas se permettre d'être associés à ces personnalités-là. Alors, ça fait en sorte que, évidemment, ils ont une imputabilité probable qui est plus grande que monsieur et madame tout le monde. Et d'ailleurs, il faudrait voir, hein, parce que il y a aussi beaucoup de chercheurs qui évoquent que c'est pas nécessairement démontrer les effets négatifs de ce phénomène-là, parce que même si ça fait couler beaucoup d'angle, c'est pas dit que ces personnes-là, sur le moyen long terme, perdent vraiment leur accès à des tribunes ou à une carrière. Puis on a beaucoup de cas, là, on peut mentionner par exemple C.K. Lewis, qui est une personnalité controversée aux États-Unis, qui fait du stand-up, qui dit des choses complètement controversées et qui continue d'avoir beaucoup de tribunes. Donc, puis il y a plusieurs personnes, je veux dire, on pourrait parler du président des États-Unis, qui pourtant a eu des dénonciations à son compte et que, à ce que je sache, va très bien là, dans sa carrière actuellement.
Nelly, par rapport à ça, parce que moi, là, je crois les femmes qui font ces témoignages-là. À 90 %, je suis certaine qu'elles ont vécu des agressions sexuelles. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça va pas trop loin? Par exemple, je lisais une influenceuse qui faisait un témoignage contre son amie, une autre influenceuse. Puis là, ça commence à être un peu... on lave son linge sale en public, mettons. Et là, les informations sur la vie privée de tout le monde sort. Est-ce qu'à un moment donné, dans un futur proche, est-ce qu'on va devoir se battre pour protéger notre vie privée? Parce qu'aussitôt tu as un compte sur Facebook, ça veut dire que n'importe qui peut dire que tu as dit n'importe quoi à n'importe quel moment.
Ben, c'est, là, vous référez à un autre problème, en fait, qui n'est pas vraiment lié à la cancel culture, justement. Parce que, évidemment, en fait, ce genre de phénomène-là que vous décrivez existait avant la vague de dénonciation. Des gens qui lavent leur linge sale en famille sur les médias sociaux. Ça fait déjà quelques années qu'on y goûte, je pense. Même dans les meilleures familles, ça se passe, là. Genre, on a toutes des anecdotes dans nos cercles, même de proches. Mais le problème, c'est peut-être cette espèce d'aspect de perte d'accès à une vie privée, perte du droit à l'oubli, en quelque sorte. Tu sais, autrefois, on disait quelque chose dans une salle avec 8 personnes, puis elle n'était pas filmée, diffusée dans une publication permanente sur Facebook. C'est un peu d'ailleurs dans cette optique-là que les stories ont été créées là, sur Instagram, sur Facebook, qui permet justement d'avoir dit quelque chose qui ne ferait plus de sens dans 5 ans. Parce que ça, c'est l'autre élément. C'est que les choses évoluent. Ce que vous avez dit en 1982, vous êtes peut-être plus d'accord avec ça, mais vous l'avez dit. Si c'était dans une vidéo figée, qu'on vous le reprochait aujourd'hui, en fonction des mœurs et des tabous, des règles d'aujourd'hui, ça pourrait ne pas faire de sens. Alors, bon, là, c'est souvent, les personnalités publiques ont toujours la possibilité, justement, de faire un rectificatif. Alors, je ne pense plus ainsi. On en a vu quelques-uns. Mais autrement, est-ce que ce sera le cas? Est-ce que tous ceux qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, qui ne gèrent pas leurs paramètres, qui utilisent justement peut-être des publications plus permanentes pour dire des choses et qui vont peut-être regretter plus tard. Bon, on peut se poser la question, est-ce que justement ça génère ce genre de problème où on n'a plus de vie privée? Mais en même temps, ça devient une norme sociale. C'est le cas de tout le monde. Alors, on a l'impression que c'est incroyable que dans 5 ans, ça reste. Mais ça va rester pour tout le monde. Donc, il faut voir ce que ça va faire comme, disons, effet social, là, cette chose-là. Je peux pas le prévoir. J'ai pas de boule de cristal pour ça. Mais ça va changer nécessairement les normes sur ce sujet-là. Mm-hmm. Donc, il faudra bien sûr tenir compte de ça, de cette évolution-là, quand on prendra la place dans l'espace public, comme on doit le faire encore aujourd'hui et comme on devait le faire il y a 30 ans, finalement.
Oui, et je dis toujours, si vous êtes pour écrire un statut Facebook ou un statut sur un réseau social, pensez toujours que 500 000 personnes qui vous regardent. Est-ce que vous seriez prêt à dire
tournez ça? Tournez votre pouce cette fois avant de tweeter ou Facebook.
C'est ça. Nelly Briand, spécialiste des réseaux sociaux, merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.